Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, y a-t-il des territoires inaccessibles pour Daesh ? La liste est impressionnante et elle n'est pas exhaustive. En Tunisie, au Canada, en Australie, en France, au Danemark, au Yémen, en Turquie, au Daghestan, dans le Caucase russe, au Bangladesh, au Liban, aux États-Unis, dans chacun de ces pays, l'État islamique a revendiqué au moins un attentat. Et la liste pourrait encore considérablement s'allonger dans la mesure où cette organisation semble aujourd'hui capable de recruter des combattants dans n'importe quelle partie du globe, jusqu'en Chine, jusqu'en Sibérie. Un an et demi après la prise de Mossoul en Irak, l'État islamique a réussi à étendre son réseau bien au-delà de ses frontières initiales. Implanté en Syrie, Daesh l'est désormais également en Libye, dans la région de Sirte. De nombreuses organisations islamistes lui ont par ailleurs prêté allégeance, la plus connue étant sans doute Boko Haram au Nigeria. Alors certes, l'armée irakienne est parvenue à lui reprendre la ville de Ramadi fin décembre, ce qui serait le signe pour certains d'un affaiblissement militaire et territorial, mais sa capacité de nuisance semble n'avoir jamais été aussi importante. Alors y a-t-il des territoires inaccessibles pour Daesh ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Anne-Clémentine Larocque, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maître de conférence à Sciences Po en questions internationales.
Exactement.
Vous avez publié en 2014 un Que sais-je, donc aux éditions PUF, Géopolitique des islamismes, dont la nouvelle édition va bientôt sortir, je crois.
Exactement, juste avant l'été, normalement, d'après mon éditeur.
Bon, voilà. Bah écoutez, on suivra ça. Pour discuter avec vous ce soir, Philippe Hugon, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous y êtes en charge de l'Afrique. L'Afrique qui est un des terrains d'expansion de l'État islamique. Nous allons évidemment en parler. Puis troisième invité, Hocham Daoud, bonsoir.
Bonsoir.
Anthropologue, ingénieur de recherche au CNRS, vous êtes l'ancien, enfin vous avez été responsable de l'antenne irakienne de l'Institut français au Proche-Orient. Vous avez passé plusieurs années, notamment je crois c'était à Erbil, Hocham Daoud. C'est un des territoires, alors non pas Erbil, mais en tout cas l'Irak où l'État islamique a commencé son implantation. Est-ce qu'on peut dire qu'un an et demi, en tout cas après cette prise spectaculaire de Mossoul en Irak, Daesh a réussi à sanctuariser un territoire ? Ou bien est-ce que les terrains qui sont conquis et qui sont administrés aujourd'hui par l'État islamique sont des terrains encore extrêmement fragiles ?
Pas tout à fait sanctuarisé. Daesh profite de dysfonctionnement politique de l'État irakien, dysfonctionnement des divisions à l'intérieur de la famille politique irakienne. Depuis 2003, depuis l'invasion, les Irakiens ne sont pas réussis sur le fond de forger quand même une gouvernance partagée avec des éléments, des outils de pouvoir, des délégations de pouvoir qui se trouvent sur le terrain. Bon, la marginalisation de certains a créé une niche pour Daesh pour se développer. Avec le temps, bien sûr, ça se radicalise. C'est qu'on parle maintenant de certains sunnites qui suivent Daesh sur le terrain. Mais réellement parlant, certes, Daesh reste quand même fragile. Depuis le 18 mai jusqu'à aujourd'hui, Daesh n'a pas gagné un pouce. Donc à ce moment-là, il faut dire que Daesh a reculé, non seulement Ramadi. Daesh, déjà, depuis le mois d'avril dernier, il a perdu Tikrit. Daesh, il a perdu Béji, Daesh, il a perdu Sanjar, Daesh, il a perdu la plaine de Ninive qui se trouve entre Mossoul actuel et puis la région de Kurdistan. Daesh, il a perdu une bonne partie aussi de Ramadi, presque 60-70% de la ville jusqu'à aujourd'hui. Il y a de contre-attaques un peu partout. Bref, si je fais un bilan un peu rapide, depuis presque 8 mois, Daesh a perdu quelque 40% de territoire qui était directement contrôlé par lui. Il faut préciser
vous,
quand même...
Vous parlez du territoire quoi ? Du territoire irakien ou également du territoire syrien ?
Du territoire irakien qui était sous contrôle de Daesh. Il faut voir un peu la chose. Il y a des territoires de gestion directe de Daesh, des grandes villes comme Mossoul, comme Fallujah, etc. Il y a des territoires quasiment vides, mais on dit que c'est sous l'influence de Daesh, où il n'y a pas une population, la densité de population, c'est presque une personne par kilomètre carré. Donc à ce moment-là, c'est vrai. Par rapport à la densité de la population, la présence démographique, etc., Daesh a beaucoup perdu. L'essentiel, Daesh est sur la défensive. Daesh, il était toujours en attaque, et là sur la défensive. Daesh était toujours pour mener la vie dure aux autres. C'est aujourd'hui, c'est lui qui subit la contre-attaque. Donc, l'initiative, ça passe de son côté.
Alors, j'avais un autre chiffre, moi, qui a été publié récemment par l'IHS Jane's, qui est un institut de recherche sur les questions de défense, qui évoquait là alors un rétrécissement du territoire de l'État islamique de 14% en 2015. Alors, sachant qu'Anne-Clémentine Larocque, que c'est de toute manière extrêmement difficile d'évaluer exactement les territoires qui sont contrôlés par cette organisation.
Ah oui, c'est sûr que c'est extrêmement difficile dans la mesure où on a peu de personnes qui vont sur le terrain, qui peuvent véritablement se rendre compte de ce qui se passe. Et c'est vrai que, bon, je suis absolument d'accord avec vous, ce qu'on sait en tout cas, c'est que depuis avant l'été 2015, il y a un rétrécissement en tout cas de ce territoire. Et notamment aussi une peur, je pense, importante depuis que les Russes interviennent. Il y a véritablement une crispation de l'État islamique par rapport à cette intervention russe, qui fait qu'on a vu aussi le nombre d'attentats augmenter ailleurs, en dehors du Moyen-Orient. Ce qui montre aussi que, je dirais, la bête a peur, entre guillemets, quoi.
Philippe Hugon, ce rétrécissement du territoire, qui est compliqué à évaluer, est-ce qu'il n'est pas compensé par d'autres gains de territoire? Par ailleurs, on parle beaucoup, et d'ailleurs ça a été le cas dans le journal de la Libye, avec cet attentat important aujourd'hui qui a fait une cinquantaine de morts contre la police. Ça s'est passé à l'est de Tripoli, même si c'est pas un attentat, il faut préciser, qui a pour l'instant été revendiqué par l'État islamique, mais enfin ça en porte la marque. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut dire que Daesh compense ses pertes d'un côté par d'autres conquêtes ailleurs?
Alors, je pense que dans la stratégie de Daesh, il y a d'une part le contrôle territorial qui correspond globalement à ce qui a été annoncé comme un califat en 2014. Et puis, il y a évidemment la constitution de ce qu'ils appellent des vilayas ou des provinces, avec un certain nombre de groupes qui font plus ou moins acte d'allégeance. Et donc, on est dans cette logique, je dirais, à deux dimensions. Alors, sur le plan strictement territorial, je voudrais quand même rappeler, peut-être pour nuancer un tout petit peu ce qui a été dit, parce qu'effectivement, il y a la question des chiffres qui est toujours discutée, c'est qu'aujourd'hui, le contexte est moins favorable actuellement par rapport au rétrécissement de l'influence de Daesh, compte tenu d'une très grande division de la coalition contre Daesh. On peut dire que d'un côté, les Russes ont quand même comme priorité le soutien de Bachar al-Assad, que les Turcs ont plutôt comme priorité de lutter contre les Kurdes et éventuellement avoir quelques collisions au point de vue trafic pétrolier, et qu'aujourd'hui on a un jeu extrêmement ambigu de l'Arabie Saoudite. Donc il faut voir qu'actuellement on est dans une configuration internationale où ce qui pouvait être la reprise de Mossoul n'est pas du tout assuré actuellement compte tenu de la coalition. Alors par contre, en contrepartie, il y a ce qui était prévu depuis plusieurs mois, c'est le fait que si jamais ils perdaient du terrain en Irak et en Syrie, ils avaient la base de repli de la Libye. Et la Libye, depuis très longtemps, on sait que c'est l'enjeu stratégique, d'autant plus que c'est par la Libye que se feront la diffusion de l'État islamique en Afrique. De même que c'est la chute de Kadhafi qui a entraîné, de fait, l'extension du djihadisme dans les zones africaines.
Ça les rapproche de l'Europe, en plus.
Voilà. Donc, je pense qu'actuellement, l'enjeu qui devient le plus stratégique, et je ne sais pas quelle va être la réaction de la communauté internationale, c'est le fait qu'il y a du risque de prise de deux ports pétroliers en Libye, que l'État islamique est à Sirte actuellement, qu'il affronte actuellement des mouvements violents, qu'il y a une division complète du gouvernement, il y a deux gouvernements en Libye, et donc l'enjeu, à mon avis, stratégique qu'il faut suivre extrêmement avec beaucoup d'attention, c'est la Libye.
Anne-Clémentine Larocque, la Libye, c'est un territoire de conquête pour l'État islamique, ou c'est avant tout une zone de repli, ce qui ne veut pas exactement dire la même chose?
En tout cas, ce serait sûrement le territoire qu'ils visent pour justement avoir une succursale, je dirais, favorite par rapport aux autres territoires sur lesquels ils sont implantés grâce aux groupes qui font allégeance. Et c'est vrai qu'on se rend compte d'une chose, c'est que l'État islamique va aussi dans des structures qui sont des États faillis, ou qui sont en train justement de se déstabiliser, qui sont en proie à des tensions, à des divisions ethniques. Bon, on sait très bien que la Libye, au niveau du tribalisme, justement aussi favorise cette division. Et c'est vrai que ça pourrait être une porte en plus très intéressante et pour l'Afrique du Nord et pour l'Europe. Et en plus, ce sont les voisins des Égyptiens qui demeurent quand même dans une politique extrêmement drastique vis-à-vis de l'État islamique aujourd'hui.
Hacham Daoud.
Oui, concernant simplement le territoire, retour par rapport aux chiffres britanniques et britanniques. Les Britanniques, ils disaient Daesh contrôle 98 mètres carrés. Tandis que la presse française anglo-saxonne, il disait, c'est la superficie d'un territoire comme la Grande-Bretagne. Donc, quand on dit 14% ici ou 40% là, ça retrouve quelque part par rapport à la projection qu'on fait. C'est la raison pour laquelle je parlais d'un territoire de ville directement contrôlé avec des zones d'influence. Et le territoire irakien, contrôlé par Daesh, à part Mosul et Ramadi, c'est un territoire désertique. C'est à peu près aussi dans le territoire syrien. Bachar el-Assad, aujourd'hui, il contrôle à peu près 23 à 25%, mais dans ces 23 à 25%, il y a presque la moitié de la population. L'autre moitié, il se trouve déplacé à l'extérieur, etc. Mais de qui on parle? De quelle densité? De quelle présence? Donc tout cela, c'est relatif, relativisé. Il faut donner beaucoup d'informations pour qu'on arrive à une meilleure évaluation par rapport à cette donnée-là. C'est la première chose. Deuxièmement, Daesh se projette à l'extérieur, etc. Daesh, à la différence d'Al-Qaïda, Daesh est une organisation djihadiste qui part d'un contrôle et gestion d'un territoire, avec la formation d'une identité belliqueuse par rapport aux autres. En l'occurrence, en Irak, contre les chiites, contre les non-musulmans, chrétiens, yazidis, etc. Et deux fois, on va plus loin, ethniquement, arabes, sunnites, contre les Kurdes et contre les autres. Quand on se projette ailleurs, c'est comme un emblème d'organisation territoriale et non pas comme l'idée d'Al-Qaïda comme un réseau. Donc à partir de là, il faut constituer des organisations, des institutions, des gestions locales. Et il n'y a pas d'Irakiens qui vont aller en Libye pour faire un Daeshistan là-bas. Il y a les Libyens djihadistes qui retournent là-bas sur place, essentiellement des Tunisiens, qui sont au nombre de 6 à 7 000 personnes qui sont engagées sur le territoire irakien et syrien. Donc à partir de là, du moment qu'on retrace les territoires de Daesh en Irak, il y a une déflagration qui se passe à l'extérieur. C'est les dangers. Vous savez, c'est un peu comme des chapelets. Il y a le fil qui lie tous les billes de chapelet. Quand vous coupez cela, après les billes, ça disparaît dans la nature, il tourne sur soi. Ce qui se produit aujourd'hui avec Daesh.
Sauf que entre la Libye aujourd'hui et l'Irak et la Syrie, il y a un certain nombre de pays. Quand vous parlez les uns et les autres, alors pas tous avec les mêmes mots, mais en tout cas de succursales pour Daesh, il y a quand même entre, il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, il y a le Liban, Philippe Hugon. Est-ce que ça ne complique pas justement l'expansion de Daesh en Libye? Et est-ce que ça peut aussi vouloir dire que cette organisation va chercher à assurer une forme de continuité entre les différents territoires qu'elle contrôle?
C'est pas évident qu'il y ait une continuité territoriale. Par contre, je pense qu'il y aura des stratégies. C'est très intelligent, la stratégie Daesh en termes d'efficacité, en termes de marketing, en termes de cassettes pour mobiliser des jeunes qui sont sans repère, etc. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs stratégies de Daesh qui sont envisageables. La stratégie première, c'est évidemment la présence en Irak et en Syrie, le califat qui reprend l'histoire des Abbassides, etc. Donc ça, c'est leur stratégie. Mais ceci étant, je pense qu'ils sont tout à fait capables, le terme a été utilisé parce qu'il y a toujours des métaphores entre cancer, métastase, virus, etc., d'avoir des mutations. Et donc, leur organisation, qui effectivement est territoriale, peut très bien devenir très rapidement une organisation en réseau. Si je vois la manière dont s'est fait la relation avec Boko Haram et l'évolution de Boko Haram, au départ Boko Haram c'est par
exemple... Boko Haram, faut rappeler, c'est au Nigeria. Hein.
C'est d'ailleurs, le terme de Boko Haram est un terme qui est faux, enfin c'est celui qu'on emploie, c'est l'État islamique en Afrique occidentale. Hein. C'est ça le terme officiel de Boko Haram.
Et qui a fait allégeance à l'État islamique il y a un petit peu moins d'un an.
En 2015. En mars 2015. Mais au départ c'est une secte. Une secte qui est localisée dans un espace donné, qui est globalement les États du Nord et du Nigeria, et notamment l État du Borno, avec Maiduguri, puis progressivement qui a pris une extension, et donc qui a fait allégeance à l'État islamique, au départ sans aucun appui logistique, sans aucun financement. Mais on voit bien qu'actuellement, et surtout avec des connexions possibles avec la Libye, il y aura obligatoirement une mutation. Et donc, la question qu'il faut étudier, c'est pas simplement l'occupation d'un territoire, c'est la manière dont une organisation est capable de muter compte tenu du contexte dans lequel elle se trouve.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi poser la question de la manière suivante, Anne-Clémentine Larocque, est-ce que l'État islamique est en mesure d'exporter un modèle politique en dehors de son fief actuel que sont l'Irak et la Syrie?
Écoutez, moi je pense que au-delà d'un modèle politique, c'est d'abord un label qu'ils sont en train d'exporter. Et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on a un label qui est demandé même, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de le proposer puisqu'on leur demande. Boko Haram, ça a été le cas justement. Ils veulent les autres groupes islamistes, par exemple en Afrique, mais il peut en avoir d'autres, effectivement, qui peuvent naître et véritablement prendre en Occident, par exemple, vont demander ce label pour avoir cet étiquetage qui devient de plus en plus connu, qui est mondialement connu aujourd'hui. Et ensuite, effectivement, le logiciel de propagande pourra s'activer. Parce que un programme politique en tant que tel, mis à part dire qu'il veut mettre en place le califat mondial, il n'y a pas véritablement de politique au-delà de ça, si vous voulez.
Il pourrait y avoir un modèle, en tout cas, du point de vue de l'organisation politique, d'un mode d'administration d'un territoire.
Oui, parce qu'ils sont en train de faire, d'ailleurs. Mais ils ont repris aussi des éléments qui étaient déjà sur place en Irak. Et ils les ont ensuite, on va dire, adapté à ce qu'ils ont voulu mettre en place. Et je suis d'accord avec M. Hugon, c'est qu'en fait, il y a vraiment une adaptation au fur et à mesure aussi de la créature État islamique, c'est-à-dire qu'il s'adapte à ce qui se passe. Et on parle de la distinction à faire entre Al-Qaïda et l'État islamique sur le fait qu'il y a un territoire, effectivement, qui soit ancré, mais on voit qu'il est en train d'évoluer, parce que peut-être que la Libye peut devenir une seconde solution. Je pense qu'ils sont déjà organisés en réseau dans la mesure où ils recrutent, comme d'ailleurs Al-Souri, idéologue d'Al-Qaïda, l'avait proposé à Ben Laden il y a à peu près 15 ans en disant qu'il fallait justement s'adresser davantage aux masses plus qu'à la formation de djihadistes qui soient recrutés véritablement de manière très structurée par Al-Qaïda. Donc on a aussi une utilisation de ce qui a été fait et je pense qu'il s'adapte constamment à ce qui se passe dans la région, en Afrique et dans le monde entier.
Il y a une forme de souplesse de l'État islamique dans sa façon d'avancer au Cheikh Daoud.
En Irak, en Syrie, l'État islamique, jusqu'à il y a 6 mois, il fonctionnait de manière très décentralisée, très souple. Et même quand on parle d'État islamique en Irak ou Liban, bien évidemment, l'ancrage irakien était très distinct par rapport à l'ancrage syrien. Vu la domination irakienne sur cette création, cette nobleuse djihadiste de part, qui est devenue une structure ancrée territoriale. Je vous donne quelques chiffres, parce qu'il y a quand même quelques 6 à 7 institutions à l'intérieur de commissions, à l'intérieur de Daesh, qui sont les plus déterminantes, militaires, financières, médiatiques, de sécurité, etc. Or, à l'intérieur de tout cela, c'est les Irakiens qui le dominent, et de loin. Et presque 70%. Et dans certaines commissions, par exemple sur le territoire irakien, vous voyez aucun étranger. Quand j'ai dit aucun étranger, aucun non-irakien. Par exemple, si je prends la commission militaire, la haute commission militaire pour Daesh sur le territoire irakien, il n'y a pas un Syrien là-dedans.
Ce qui veut dire que ce n'est pas vécu comme des forces d'occupation.
Non, c'est question d'affinité, question de confiance, question de solidarité de corps, question de proximité. Comment vous recrutez, comment vous employez cette compétence et en qui vous avez confiance. Et vous savez, l'information, ça passe très vite, l'information, ça circule. Entre Erbil et Mossoul, vous savez, il y a 70 kilomètres. Daesh, il était en 2014, il était à peine à 13 kilomètres d'Erbil. Donc l'information, ça passe très rapidement. Et puis l'aviation, il se trouve à 20 kilomètres américaine. Donc la rétorsion et la réponse, ça fait très vite. Daesh fonctionne en termes sécuritaires. Les anciens bases, en termes de sécurité militaire, c'est eux qui l'armature Daesh à l'intérieur de l'Irak. Or, sur le territoire syrien, c'est les Irakiens, ils sont aussi dominants. Ce qui fait leur force, mais leur faiblesse aussi. C'est là où Daesh, c'est à la fois territorial, il ne peut pas se projeter en tant qu'une organisation internationale Daesh, mais en tant que modèle à suivre, à imiter à l'extérieur.
Alors s'il y a administration, il faut que ce soit une administration qui soit faite et sans doute dominée par des locaux. Philippe Hugon, est-ce que, alors, terre particulièrement friable, disons, par rapport à ce que pourrait être une avancée territoriale idéologique de Daesh, est-ce qu'en Afrique, il y a une masse critique d'organisation et de personnel pour avoir justement une duplication de ce que représente Daesh en Syrie et en Irak? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'au Nigeria, par Boko Haram, ça peut être le cas, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient aussi tomber dans ce...
Oui, alors je crois qu'il faut avoir là une approche, on va dire, bottom-up, qui part de ce qui existe en termes de groupes de milices et voir en quoi il y a une jonction qui se fait avec l'État islamique. Il y a un certain nombre de conditions qui sont remplies pour qu'il y ait une expansion du djihadisme, que ça soit le salafisme radical, qui est présent, que ça soit la vulnérabilité des populations, que ça soit le désœuvrement complet des jeunes qui ont le choix entre le petit boulot informel, entre le trafic et le recrutement dans une milice. Donc on a beaucoup de conditions qui sont remplies. Et évidemment, il y a des groupes qui savent jouer de ces conditions et qui savent assurer le minimum de sécurité alimentaire, le minimum de santé, le minimum d'éducation qui passe par l'école coranique, mais qui est quand même aussi une forme d'accès à l'école. Et donc, évidemment, qu'il y a des groupes qui sont en phase avec les populations. Et donc, c'est pas des corps étrangers. Ce sont des acteurs qui savent très bien jouer des frustrations, de la corruption du pouvoir, qui savent développer un modèle qui peuvent attirer un certain nombre de jeunes qui sont en recherche d'une idéologie alors qu'ils n'en ont plus aucune, ni le socialisme, ni le nationalisme. Alors, c'est à partir de ces groupes qui sont constitués globalement par des groupes qui soit maintenant s'affilient à Al-Qaïda, soit s'affilient à l'État islamique. Et ce qu'on a dans ces différents groupes, c'est un jeu de concurrence. Par exemple, pour prendre au cas du Mali, au Mali, il y a le Mourabitoun, le Moudjahou maintenant est plutôt proche de l'État islamique, alors que les autres sont proches d'Al-Qaïda. Les Chebab maintenant...
Même s'il y a eu des demandes d'allégeance contradictoires
Contradictoires,
au Mali, hein.
Effectivement, mais en plus il y a des divisions aussi, il faut savoir, entre chefs. Donc certains veulent contrôler telle milice qui est dans des trafics ou dans des capacités de recrutement. On a ça chez les Chebabs de Somalie, dont une partie maintenant est liée à Al-Qaïda, dont une partie est liée à l'État islamique. Donc tout le jeu se fait sur le terrain par différentes milices qui sont en alliance, en désalliance. Et puis après ça, il y a effectivement le lien avec une organisation qui est mondialisée, qui est l'État islamique ou qui est Al-Qaïda. Et à ce moment-là, tout le problème et l'inconnu, c'est de savoir si d'une connexion idéologique et d'une conformité globalement par rapport à la propagande, on va passer à un appui logistique, un appui financier important. Alors c'est ça, à mon avis, la grande question.
Justement, sur la connexion idéologique, Anne-Clémentine Larocque, est-ce qu'on peut parler d'un socle idéologique commun minimum qui pourrait permettre à l'État islamique d'envisager justement une extension de son influence?
En fait, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, oui, il existe un socle commun avec tous les groupes islamistes radicaux, c'est-à-dire c'est le takfirisme. Le takfirisme, qu'est-ce que c'est ? Le takfir, c'est l'idée d'excommunication en fait des impies, qu'ils soient musulmans comme non musulmans. Hein. Et ce takfir, donc il est né dans les années 60-70 et par les dires, par l'écrit de Sayyid Qutb, qui était donc un frère musulman au départ, hein, qui ensuite a ancré et centralisé le djihad au cœur de sa doctrine. Donc Al-Qaïda, bien sûr, se réfère au takfir, bien sûr l'État islamique également, et donc effectivement on a quand même cette idée que le djihad et la diffusion, en tout cas de l'idéologie islamiste, fasse partie de ce qu'il faut mettre en place au niveau politique et au niveau social. Hein. Ça, c'est un premier point. Après, comme vous l'avez dit, c'est vrai que pour la problématique africaine, par exemple, on a aussi beaucoup des ancrages qui sont nationaux et liés à des problématiques véritablement locales. Et ça, ça peut venir, si vous voulez, aussi, pas contrarier, mais l'idéologie commune. On va avoir une application qui peut être différente. Donc, je pense que l'idéologie, bien sûr, islamiste, existe. Après, on va avoir des applications qui peuvent aussi se contredire et pourquoi pas des contradictions qui peuvent se faire entre l'allégeance vis-à-vis d'Al-Qaïda ou vis-à-vis de l'État islamique. Juste une chose par contre par rapport à la Libye, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez sur l'Irak, le fait que les Irakiens soient...
Alors vous adressez
très
à Hocham Daoud.
Voilà, pardon. C'est un peu le cas aussi en Libye aujourd'hui puisque ce sont quand même tous les cadres kadhafistes déçus qui sont véritablement enrôlés dans l'État islamique. Donc on a un peu une reproduction
voilà, ce qui s'est passé
en 2003 suite à l'intervention des Américains, etc.
Alors on a parlé d'ancrages territoriaux, c'est extrêmement important, on pourrait continuer, mais je voudrais qu'on fasse un petit peu avancer la discussion, puisque je vous rappelle la question qu'on pose ce soir, y a-t-il des territoires inaccessibles pour Daesh ? Pas seulement en termes de conquête et d'administration de territoires, mais aussi des territoires inaccessibles du point de vue d'attaques et d'actes terroristes. Je faisais la liste tout à l'heure des attaques et des attentats qu'avait liste non exhaustive, je le rappelle, qu'avait pu être revendiqué. On voit qu'il y a une très très grande diversité de pays dans le monde. Hocham Daoud, est-ce qu'on peut dire déjà que tous les pays, a priori, sont potentiellement des cibles aujourd'hui, à partir du moment où l'État islamique le déciderait ? Et est-ce que le fait de cibler des pays aussi différents que le Bangladesh, les États-Unis, la France ou l'Australie, ça signifie que cette organisation essaie d'étendre également dans ces pays-là sa zone d'influence ? Ou bien est-ce qu'il s'agit avant tout de dire à ces pays, attention, la menace, elle est intérieure, donc laissez-nous tranquilles, nous, dans les territoires qu'on contrôle ?
Il y a deux démarches d'âge. La première chose, la la grande distinction avec Al-Qaïda, c'est non seulement gestion territoriale, ancrage local, c'est aussi comment on classe l'ennemi, l'adversaire. Pour Al-Qaïda, l'adversaire premier, c'est l'ennemi lointain. Donc on frappe New York, on frappe Washington, peut-être l'Europe s'ils ont la capacité et la possibilité. Tandis que pour Daesh, l'ennemi premier est classé, c'est l'ennemi proche. Ce qui différencie totalement. Et ce qui explique pourquoi le monde même il était divisé devant Daesh. Certains même, dans le pays où nous sommes, jusqu'à il y a à peine un an, exactement jour pour jour, on ne savait pas comment classer les choses. C'est Bachar el-Assad en premier ou Daesh en premier. Donc cette lacune-là, c'était la lacune de tout le monde, quasiment. Mais depuis que Daesh a été maintenant dépassé les limites possibles, et non seulement territoriales, il se projette à l'extérieur, et deux fois, elle résonne, elle réagit politiquement, et apporte du coup à celui qui l'aide ses adversaires en Irak et en Syrie, etc., il se projette comme une sanction contre les autres. À ce moment-là, comme des attentats, éliminations, etc. Et Daesh, depuis quelques mois, il, comme on dit, des attentats avec soit des gens envoyés de là-bas, soit des gens qui se trouvent sur place. Et Daesh, bien sûr, il y a des territoires à conquérir, il y a des territoires à sanctionner. Frapper aujourd'hui la Chine ou le Japon, c'est pas dans l'esprit de Daesh de brandir le drapeau à Pékin. Non plus en Europe. Mais cela étant, des territoires proches, c'est à le rendre chaotique, hors normes, hors régulation, et à partir de là, islamisation à la base, tekfirisation, ça veut dire excommunication, et puis à ce moment-là, on verse le modèle à l'intérieur, c'est le modèle de gestion Daesh qui constitue l'alternative. Voilà leur chemin qui est très clairement expliqué dans leur ouvrage, d'ailleurs, qui précède la création de Daesh, le management de la sauvagerie. Et d'ailleurs, c'est pas, en passant, pour Daesh, c'est pas Al-Souri, même si ça fait pas plaisir à Kipel, c'est pas Abu Mus'ab Al-Souri qui fait vraiment l'apanage de Daesh, c'est Abu Bakr Naji, c'est essentiellement qui est ignoré par tout le monde, c'est Abu Abdallah Al-Muhajir.
Voilà, très très court extrait d'un chant en mandarin, donc adressé aux Chinois, qu'on peut trouver très facilement sur Internet, qui a été produit par l'agence de communication, on peut dire, de l'État islamique. Simplement, c'était pour illustrer sans doute cette idée qu'aujourd'hui, on a l'impression que Daesh n'a absolument aucune limite, que ce soit dans les zones où elle veut frapper, et dans les zones où elle cherche à recruter, elle s'adresse aux Chinois, elle s'adresse aux Russes, elle s'adresse aux Occidentaux, elle s'adresse à tout le monde, Philippe Pugon.
Oui, oui et non. Ça a été dit tout à l'heure, il y a des priorités qui consistent, il y a une hiérarchie entre ceux qui sont les bons musulmans, hein, et puis ceux qui sont des apostats, ceux qui sont des chiites, ceux qui sont des chrétiens, des juifs, etc. Il y a une hiérarchie. Puis d'autre part, il y a un jeu, ça a été rappelé, par rapport à ceux qu'il faut sanctionner, c'est-à-dire ceux qui attaquent Daesh. Donc concrètement, c'est la France, c'est la Russie, c'est la Grande-Bretagne. Il y a donc des pays quand même qui sont particulièrement visés.
Bon, alors, la Chine n'est pas directement visée, mais il y a quand même des messages de propagande qui sont adressés aux musulmans chinois pour leur dire
absolument.
Libérez-vous.
Alors, c'est ça que je voulais dire. Alors ensuite, il y a le fait que les premiers alliés et les premiers visés, ce sont les musulmans. Hein, qu'il faut bien rappeler, le nombre d'attentats concerne essentiellement des musulmans, et les alliés se trouvent également dans des minorités. Alors, en Chine, c'est la minorité ouïghour, en Russie, ça sera la même minorité, si on veut, tchétchène, et partout, il y a des minorités musulmanes. Il faut savoir aussi que le monde musulman va devenir essentiellement un monde asiatique dans le futur. Ce n'est plus, donc, c'est la perte du pouvoir de l'Arabie saoudite et même de l'Iran en tant que lieu de l'islam. Donc, on a ce déplacement, donc il est évident que dès lors qu'il y a des possibilités d'alliance et des groupes extrémistes, parce qu'il y a des jeunes qui sont également à la recherche d'un certain idéal, etc., dans ces pays, ou qui sont frustrés par rapport à l'État, etc., on a une extension qui est possible, notamment en Asie.
Et y compris dans le recrutement, il y avait un papier tout récent dans Le Monde, daté du 6 janvier, qui relatait le récit d'un djihadiste français repenti. Alors, récit qui date de l'été dernier, mais à un moment donné, il explique notamment dans cet article du Monde qu'il se retrouve dans une maison à la frontière syrienne avec tout un tas d'autres djihadistes en puissance. Et il dit qu'il se retrouve avec un Australien et sa femme, un Kurde, un Égyptien avec son épouse et son fils, deux Algériens, un Luxembourgeois, un Indien et un Qatari. Anne Clémentine Larocque, ça illustre vraiment presque ce qui est devenu cette internationale, on serait presque tenté de parler de brigades internationales si la référence historique n'était pas un petit peu limite, mais on est vraiment dans cette logique-là aujourd'hui avec Daesh.
En fait, oui, je pense qu'ils adressent leur message à qui veut rentrer dans le dispositif, hein, c'est-à-dire que c'est sur le volontariat, c'est qui veut être un martyr. C'est ça qui pose comme question. Qui veut être un martyr? Que vous soyez australien, indien, chinois, vous pouvez y aller dès lors que vous faites partie de cette mouvance-là et de ce mouvement-là et que vous y croyez, hein, que vous ayez le logiciel qui soit bien en place. Je pense aussi que plus vous avez de gens qui vont être recrutés dans les pays, hein, par exemple, on parlait d'un Sibérien, il y a des Chinois aussi de plus en plus, plus vous allez pouvoir mettre en place dans ce pays une propagande au fur et à mesure et installer donc des dispositifs, des réseaux, etc. On voit bien que plus vous recrutez loin, plus dans le pays qui est lointain, on va pouvoir aussi s'infiltrer. Je pense qu'il n'y a véritablement pas de limite, vous avez raison. Je pense en revanche que l'État islamique s'adresse particulièrement à des pays qui ont des failles, et des failles par exemple identitaires et nationales. On le voit en France aujourd'hui, on le voit en Chine, les Ouïghours, la minorité Ouïghour, ça reste un problème hein, que les Chinois nient, mais qui existe aujourd'hui. Et donc ils vont aller davantage, bien sûr, là où il y a fracturation ou début de fragmentation, de toute façon. Il y aura plus d'écho et ils le savent très bien.
Hacham Daoud ?
Oui, là aussi, il faut faire une typologie de ceux qui le rejoignent Daesh. Certains le rejoignent parce qu'ils sont marginalisés, humiliés, etc. On le voit en Irak, en Syrie, etc. D'autres, par solidarité, ils arrivent de pays de Golfe, d'Afrique du Nord, etc. On les dit, Assad, il était en bourreau, il faut aller là-bas, on débarrassait. Certains vont, d'autres, soit par le biais d'humanisme, politique, engagement, etc. Mais il y a aussi, il y a à peu près 23 à 25% des gens convertis, essentiellement, et de toute la religion. Je dis de toute la religion, il y a même des bouddhistes convertis, qui rejoignent Daesh à ce niveau-là et à ce moment-là. Je vous donne un chiffre pas connu. Il y a... On varie entre 10 et 50 membres japonais. Ils ont rejoint Daesh. Il y a un parmi eux, d'ailleurs, le plus dangereux, parce qu'il est certain expert en puissance en chimie. Là, qu'est-ce qui le pousse? C'est la radicalisation avant l'islamisation. L'islamisation, c'est le point d'arrivée. Et il y a tout le monde que les gens, ils le souffrent au niveau identitaire, au niveau social, au niveau économique, au niveau de notre système qui a tout bout de souffle. Il y a des gens qui arrivent ici, là, par rapport à la différence, le rang qu'on établit. Il y a certains moments, la fragilité, la psychologie, le groupe, et tout cela, ça pousse. Il y a un détachement qui se fait, il y a une dynamique. Il pousse certains qui vont rejoindre ce type. Au point d'arrivée, Daesh, il devient celle-là où ça déclenche autre chose.
Mais pour réussir, par exemple, à recruter des Japonais, ça suppose une grande intelligence et une grande maîtrise de la communication, de la propagande et des outils qui véhiculent cette propagande.
Bien sûr, Daesh, c'est une organisation très, très, je dirais, moderne. Il emploie des capacités. Prenez même le bulletin qu'ils font en français. Rarement, vous voyez une faute là-dedans. Des fois, on se pose des questions. Ils le produisent où ? Là-bas, ou ici, ou décentré, ou ailleurs. Donc il y a une modernité de gestion, il y a une délégation de pouvoir, il y a beaucoup d'argent, et ils payent, ils l'achètent. C'est une organisation prédatrice, mafieuse aujourd'hui. Quand vous avez une compétence, vous avez besoin de faire venir quelqu'un pour produire du pétrole, ou de faire un peu de communication, d'autres choses, et de mise en scène et de tournage d'un film, ils payent.
Le français utilisé dans le communiqué de presse suite aux attentats du 13 novembre n'était pas véritablement très bon. Mais bon, effectivement, on comprenait en tout cas l'idée.
Je parlais de bulletin de Dabak en français qui s'est produit.
D'accord.
Si vous le voyez, vous voyez, c'est d'un français correct et avec peu ou pas de fautes. Ce qui pèse quand même, ce qui jette de doute, est-ce que depuis Raqqa ou Mossel, on peut produire un aussi bon français?
D'accord.
Le professeur de rhétorique sud-africain qui exerce en tout cas en Afrique du Sud, Joseph-Philippe Salazar, qui était venu chez nous et qui a fait un ouvrage récemment sur le discours véhiculé par Daesh, nous disait notamment qu'il y avait une très très grande qualité justement dans les textes qui sont faits et qu'il comprenait lui assez aisément que des jeunes puissent être séduits parce qu'il y a une langue qui est extrêmement séduisante justement, Philippe Hugo.
Oui, absolument. Ils sont remarquables dans le domaine de la communication. Ils sont de plein pied avec le monde, je dirais, virtuel dans lequel se trouve la jeunesse qui est sur des jeux vidéo, qui est sur des jeux de la violence, qui peut être séduit, ce qui est atroce, mais par la manière dont on décapite décapite un certain nombre de personnes parce qu'on ne sait pas si c'est du réel ou du virtuel. Et donc, ils savent exactement ce qui peut toucher des populations qui ont entre 14 et 18 ans et qui sont extrêmement vulnérables sur le plan psychologique. Et c'est fait avec un très, très grand professionnalisme. Donc, ils sont à la fois, je dirais, dans la barbarie absolue, mais également dans la modernité la plus avancée au point de vue technologique.
Et en fait, ils utilisent aussi les moyens des ennemis, justement, contre lesquels ils luttent. C'est-à-dire l'utilisation d'Internet, de la télévision, de justement tout ce monde de mécréants dont ils parlent tout le temps. En fait, ils utilisent leurs moyens pour pouvoir lutter contre eux. Donc, c'est une sorte de renvoi comme ça.
Oui, un jeu de miroir.
C'est un jeu de miroir qui est assez, assez bien fait. Il faut le constater.
Dans votre ouvrage, Anne-Clémentine Larocque, Géopolitique des islamismes, alors vous revenez évidemment sur la genèse de l'islamisme et puis sur un certain nombre de mouvements et vous expliquer notamment que dans de nombreux pays, il y a eu petit à petit une forme de légitimation politique des islamistes, alors qu'ils ne sont pas des mouvements qui ont des rapports avec l'État islamique, mais est-ce qu'on peut envisager, et est-ce que ce serait un territoire accessible là aussi pour Daesh, que d'avoir à terme une forme de légitimation politique ?
C'est assez compliqué de répondre à cette question parce que justement les mouvements islamistes, les partis islamistes politiques qui se sont formés l'ont fait en respectant, bon gré mal gré, en tout cas, les États dans lesquels ils se trouvaient. Il n'y a pas eu une volonté, en fait, de s'imposer hein, par le haut, sans forcément...
Il n'y a pas eu l'abandon, pour certains, de l'action violente qui s'est...
Il y a eu de l'action violente, mais il y a eu aussi un discours politique, il y a eu des tentatives, quand même, de messages politiques, en passant par une politique, je dirais, assez traditionnelle. Notamment, bon, depuis les printemps arabes. Après, on a les révolutions islamiques iraniennes en 1979, c'est de l'islamisme aussi, hein. Politique qui s'est imposé par une révolution, donc qui a effectivement aussi été un modèle pour l'ensemble des mouvements islamistes, des partis islamistes, donc ça peut se faire de cette manière-là aussi, par la révolution. Mais l'État islamique aujourd'hui, pour moi, n'incarne plus véritablement même s'il le montre aux partisans islamistes, un mouvement révolutionnaire.
Cela dit, pour qu'il y ait cette légitimation politique au Cheikh Daoud, il faudrait peut-être déjà qu'il renonce à leur projet politique, vouloir instaurer un califat, si ce n'est mondial, mais en tout cas dans l'ensemble des pays musulmans, ça ne plaît pas pour une forme de normalisation.
C'est impossible. J'ai publié dernièrement un texte qui s'appelait « Daesh, c'est le projet d'un État impossible ». Il y avait de Paris. Daesh, lui, il fonctionne à part de ce fonctionnement, comme je disais au départ, par de mous locaux, par de heures qui se cumulaient, héritaient. Mais aussi, il faut le dire, même si nous sommes à la fin de l'émission, quasiment tout le monde a joué avec Daesh. Et quasiment tout le monde a joué de Daesh. Aujourd'hui, la prise de conscience qu'on peut, à certaines limites, Daesh, c'est pas quelque chose de neutre. Et quand elle dépasse cette limite-là, elle devient nocive pour tout le monde. Certains dans la région de Proche-Orient, ils continuent encore aujourd'hui. Ils s'abattent même entre des États. Mais, Dieu merci, en Europe, un peu dans le monde, il y a une prise de conscience que Daesh, non. C'est un projet absolument diabolique, nocif, absolu. Il faut en venir et après discuter sur d'autres projets. Oui, les Syriens ont le droit d'avoir un système beaucoup plus humain que Bachar al-Assad, comme les Irakiens, un système qui accepte aussi les sunnites, les chiites, etc. Mais ce n'est pas en favorisant Daesh ou en jouant de Daesh.
Philippe Hugon, c'est vous qui aurez le mot de la fin.
Oui, je voudrais dire deux choses très rapidement par rapport à ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a des responsabilités également d'un certain nombre de personnes ou de puissances qui ont joué avec Daesh. Et donc, tel Frankenstein, c'est un monstre qui a été créé, qui a été appuyé au départ et qui se retourne contre ceux qui l'ont créé. Et donc, il faut voir la responsabilité de chacun par rapport à l'expansion de Daesh. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il y a une question dont on n'a pas parlé, qui est non seulement la question, évidemment, des conséquences et de la perception des guerres qui ont été menées par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, que ça soit en Irak, que ça soit en Syrie aujourd'hui, que ça soit en Libye, etc. Mais il y a la question de la légitimité des frontières dont on n'a pas parlé. Ce sur quoi joue également Daesh, c'est le fait que les frontières ont été créé historiquement pour l'Irak, pour la Syrie, mais également pour les pays africains, en dehors de frontières anciennes. Et sur quoi joue l'État islamique en Afrique de l'Ouest ? C'est sur l'idée d'un califat de Sokoto, sur l'idée d'un califat du Kanem Bornou, ou c'est l'idée d'un califat du Massina. Et donc, il y a aussi cet imaginaire historique qui est présent dans l'action de Daesh.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Hugon, Cheikh Daoud et Anne-Clémentine Larocque pour cette discussion. Nous ferons évidemment, bien sûr, d'autres émissions autour de ces questions. Un grand merci également à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mathilde Barthes, Barbier, Cyril Baer, Antoine Dulcer, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son ce soir Thibaut Germèze. Demain, camp de réfugiés de Grande-Synthe, mais où est l'État? C'est la question que nous poserons